Je vais vous parler un peu sur la façon qu'on a, ou en tout cas comment les ontologies nous permettent de consolider et de coder des données de santé. Alors moi je travaille plutôt dans le milieu hospitalier, donc c'est moins sur des projets tels que ceux qui vous ont été présentés tout à l'heure. Il y a des projets de modélisation ontologique qui sont prévus dans des projets de domotique, mais ce n'est pas là-dessus que je travaille pour l'instant, puisque je travaille pour les hôpitaux de Paris en général. Alors, je vous parle d'abord d'un projet qui vise à lutter contre les infections nosocomiales dans les hôpitaux et qui est un gros projet européen. Et un des hôpitaux intéressés par ce projet-là, c'est l'hôpital européen Georges Pompidou. Alors, le projet s'intitule de façon très pompeuse et prétentieuse Detecting and Eliminating Bacteria Using Information Technology. Là, la partie qui est un peu exagérée, c'est éliminer, hein, puisqu'on est en pleine infection nosocomiale. Si on pouvait un petit peu les faire baisser, ce serait pas mal. Les infections nosocomiales tuent autant de personnes que les accidents de la route maintenant. On est vers les 4-5 000 dans les deux cas. Donc ça, c'est un vrai énorme problème de santé publique. La question, c'est une question simple. Est-ce que je suis capable de trouver, par exemple, la liste des patients ayant une infection spécifique par exemple une infection urinaire par un agent pathogène donné résistante à un antibiotique donné, puisqu'en fait les infections nosocomiales, c'est toujours des résistances des bactéries aux antibiotiques. L'idée pour traiter ce problème-là, c'est de prendre des systèmes d'information hospitaliers dans le cadre de ces projets-là, tous ceux qui sont à gauche, les charger par des logiciels d'ETL, d'extraction, transformation, chargement, et les mettre dans un entrepôt de données qu'on appellera sémantique, on verra pourquoi, pour derrière arriver à faire des analyses. Et on verra justement que cet entrepôt doit être sémantique pour qu'on puisse faire ces analyses. Alors, il faut que ça se suive. Alors, pourquoi est-ce que cet entrepôt doit être sémantique ? Parce qu'il faut arriver à, s'écarter du système d'information hospitalier, pour pouvoir être générique par rapport à X système d'information hospitalier. Et deux, il va falloir d'autres informations que les informations qui sont dans le système. Donc là, on voit deux schémas réels de deux tables dans deux hôpitaux. L'un, c'est Georges Pompidou, l'autre, c'est je ne sais pas lequel. Et on voit évidemment que dans ces systèmes d'information, les bactéries et les antibiotiques ne sont pas codés de la même manière. À gauche, il y a deux lignes par opération. Il y a la bactérie et l'antibiotique en dessous, dans la table 1. Et puis dans la table 2, il y a une... Alors déjà dans la 1, vous voyez que c'est libéré bactérie 1, et puis amoxicilline, bactérie 2, c'est foxitine. Et dans la table 2, c'est dans l'entête de la table qui a marqué bactérium, évidemment, c'est le nom latin de bactérie. Et puis derrière, on a les bactéries, et puis en ligne, les bactéries, les antibiotiques, et puis le fait qu'ils soient résistants ou pas. Alors évidemment, c'est un peu compliqué. On voudrait pouvoir intégrer tout ça. Donc en fait, l'idée des entrepôts sémantiques, c'est d'utiliser les outils qu'on dit du web sémantique, c'est-à-dire en particulier les ontologies, puis le fait de stocker les données sous forme de triplet RDF pour avoir une grande souplesse de requêtes. Je ne vais pas faire un cours là-dessus. Mais on arrive effectivement, si on peut par des outils réorganiser les données de ces tables-là, les sortir d'ailleurs de systèmes d'information. Il faut savoir que ces systèmes d'information ne sont pas faits pour être requêtés pour faire du data mining. Alors, aucun de ces les systèmes d'information hospitaliers sont principalement faits pour faire de l'entrée de données pour les médecins, les hospitaliers de manière générale. Donc ils sont pas du tout adéquats à du data mining en général. Donc dans tous les cas de figure, il faut qu'on en sorte. Mais l'idée, effectivement, c'est au lieu d'en sortir sur des entrepôts de données standards, c'est d'en sortir sur des entrepôts de données sémantiques. On va en voir la raison principale très rapidement. Alors effectivement, si on pose maintenant la question très précise, quels sont les résultats d'antibiogramme du test à l'Escherichia coli résistante au bêta-lactamine ? On s'aperçoit que dans notre dossier, dans nos systèmes d'information, on ne sait pas que l'amoxicilline est une bêta-lactamine. C'est quelque part probablement dans le système de dispensation de médicaments. En tout cas, ce n'est pas dans le système d'information de l'hôpital. On ne sait pas que E. coli et Escherichia coli font référence à la même bactérie. C'est évident pour nous qui lisons ça, mais l'ordinateur, il ne le sait pas du tout. Et on ne sait pas que les champs bactérium, bactéries, bactéries font référence au même concept. Alors pour le savoir, c'est là qu'on a besoin de ces structures de connaissances qu'on appelle les ontologies. Il faut qu'on ait d'autres informations que les seules du système, c'est ce que j'ai dit. Donc un tout petit bout d'ontologie que là j'ai indiqué sur les bactéries, donc les bactéries, les entérobactéries, les staphylococcus, et dans les entérobactéries, il y a Escherichia coli, Salmonella, Serratia. Et puis par ailleurs, on peut dire, associé à Escherichia coli, il y a tous les termes avec lesquels elle va apparaître dans les champs des bases de données, pour essayer d'en louper aucun. Et puis du côté des antibiotiques, on a besoin d'une ontologie des antibiotiques qui nous dit que l'amoxicilline est une pénicilline, que les pénicillines sont des bêta-lactamines. Si on n'a pas cette info-là, on est incapable de répondre à la question. Donc l'hypothèse qui avait été testée dans le projet des Debug It, c'est effectivement de faire ces modélisations sémantiques. Et puis après, comme j'ai dit, pas tout à fait évident de le faire, mais on a fait les ontologies. Ensuite, il faut lier tout ce qui est lié par les flèches pour bien dire ce que les bactéries sont des bactériums, que les Escherichia coli sont des E. coli, enfin tout ce qui nous est évident, nous, à la lecture, il faut le dire sur des tables d'appariement pour les ordinateurs. Alors, quand on l'a dit, on a un certain nombre d'outils techniques qui ont été développés dans le cadre du web de données maintenant. On a des serveurs qui, ce qu'on appelle, redescendent les données des bases de données relationnelles dans des entrepôts RDF. Le but étant donc de se mettre dans un format commun de représentation qui est RDF, à la fois les données du système d'information et à la fois l'ontologie qui elle aussi sera en RDF. Et à partir de là, il y a un langage d'interrogation des triplets RDF qui s'appelle SparkQL, qui est l'équivalent pour les ontologies et les triplets RDF de ce qu'est SQL pour les bases de données. Là aussi, on est dans des formats totalement standards développés au sein du W3C, le consortium qui gère l'ensemble des langages nécessaires au web sémantique ou au web de données. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire que on voit que la requête qui cherche à savoir les résultats d'antibiogrammes des Escherichia coli résistantes aux bêta-lactamines se présente comme ça. C'est de l'informatique, donc c'est toujours un peu abscon. Bon, on voit que dans cette requête, DCO, c'est le nom de l'ontologie, c'est Debug It Core Ontology, donc les bêta-lactamines dans l'ontologie. Et puis, on voit un peu en dessous ce qu'on appelle les identifiants, on récupère les identifiants des ontologies, et des médicaments et des bactéries. Et puis, on récupère un certain nombre d'informations tirées du système d'information. Et on est, grâce à ça, capable de ressortir le résultat de la requête, qui va nous expliquer, par exemple, que par rapport aux 238 623 antibiogrammes qu'on avait auxquels on s'était intéressé, qui correspondaient à 61 antibiotiques et 165 bactéries distinctes, on a obtenu 4001 résultats de résistance de Escherichia coli aux bêta-lactamines. Ensuite, il va se poser la question de la dernière phrase, là, la question de la qualité des données, qui est un vrai problème dans nos systèmes d'information pour l'instant. Et puis l'autre problème, si on essaie un peu de terminer là-dessus, c'est d'un côté le développement de l'ontologie, c'est encore de la recherche, c'est des recherches du type qui sont pour l'instant financées par des projets européens en général, ou des projets ANR ou des projets européens. Et on est, pour donner un ordre d'idée des temps de développement, et vous pouvez mettre des sous en face, dans les 6 années de développement quand on veut faire l'ontologie pour ce travail-là. L'autre gros problème, c'est l'informatisation des hôpitaux. Alors, c'est ce matin que j'ai récupéré cette donnée-là, puisqu'elle est dans un des documents qu'on nous a donné dans les sacs. Je savais évidemment que la prescription médicale informatisée était peu pénétrait peu dans les hôpitaux européens. Les chiffres qui ont été calculés par les agences récentes en 2009, c'est 5%. Ce qui est quand même assez impressionnant. Donc quand on vous dit qu'un hôpital est informatisé, potentiellement la chose la plus mal informatisée, c'est celle-là. Or, si on n'a pas la prescription médicale informatisée réellement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui est proposé puis ce qui est pris vraiment, alors avoir des données sur qu'est-ce que les gens ont vraiment pris comme médicament, si on ne le sait pas vraiment, si y a un problème. L'hôpital européen Georges Pompidou, qui est un des plus informatisés, a un taux de prescription médicale informatisée de 50%. Et c'est déjà en général assez énorme. Et la moyenne européenne, elle est de 5%, et c'est en gros un des principaux verrous pour ce type de travail. L'autre verrou, c'est effectivement, encore une fois, j'en ai parlé, c'est l'ontologie. Là, dans ce cas précis, c'est l'ontologie des infections nosocomiales. Il y a pas mal de chances qu'elle soit assez standard puisqu'elle a été développée dans le cadre d'un projet européen, mais on voudrait s'attaquer à une autre problématique de santé publique. Il faut évidemment faire une autre ontologie. Un deuxième grand problème de consolidation de données, c'est des questions sur les effets indésirables des médicaments. Donc là, je vais parler un petit peu de la base nationale française de pharmacovigilance, mais je vais aller remonter jusqu'au centre mondial. Il y a tout un système de pharmacovigilance qui fonctionne dans le monde, qui fait que des médecins existent, ils sont des pharmacovigilants. Dès qu'ils soupçonnent un problème de pharmacovigilance, ils le notent, ils le font remonter sur des centres régionaux. Il y a des gens qui les font remonter au niveau régionaux, sur les comités techniques, sur les commissions nationales, à l'AFSAPS, à chaque fois avec des gens qui se réunissent, qui disent oui, il y a quelque chose, oui, non, il n'y a rien. Puis on remonte pour l'Europe à Londres et on remonte ensuite pour le monde à Uppsala en Suède, sauf erreur. Alors, quel est le principal problème qu'on a sur ces interactions? C'est qu'on a des données et qu'on ne sait pas les fouiller et qu'on ne sait pas détecter ces problèmes d'interaction médicamenteuse. On ne sait pas les donner, on ne sait pas les trouver parce que le codage est fait de telle manière que des choses correspondant à des problèmes identiques, la même interaction, sont codées de manière différente et ne sont pas regroupées. Or, un cas tout seul, c'est difficile de dire qu'il y a un problème d'interaction médicamenteuse. 3 cas, 4 cas, 5 cas, 10 cas, c'est un véritable problème d'interaction médicamenteuse. Et c'est une question de représentation des connaissances. Il y a juste à regarder le dernier chiffre tout en bas à droite. Pour 74% des cas repérés, il y a une seule occurrence dans la base française. Et on est dans le même ordre de type d'occurrence dans les bases européennes. Alors, d'abord, pourquoi on a des chiffres aussi petits et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Alors, il y a la base de, comme toujours en médecine, il y a des thésaurus et il y a la base de ce système de détection, ce qu'on appelle MEDRA, un grand thésaurus mondial sur ces questions-là, mais qui est un thésaurus qui n'arrive, enfin, qui n'a pas été fait pour ça, donc qui n'est pas tout à fait adéquat à aider le système informatique à bien repérer les interactions. On a par exemple, et ça c'est des exemples qui ont été vérifiés dans les bases, le fait que si un médecin dit que ce médicament pose un problème dans le cas 1 parce qu'il a posé, il a créé une hépatite cytolytique, et puis dans un cas 2, un même médecin ou un autre médecin, le même ou un autre repère qu'il y a eu un problème d'hépatite cholestatique, le thésaurus, la classification qui s'occupe de ça, ne sait pas repérer que les deux choses ont vraiment quelque chose à voir l'une avec l'autre. MEDRA a une structure telle qu'on remonte très très haut pour s'apercevoir que c'est deux choses identiques, mais beaucoup trop haut pour que ce soit un vrai signal. On remonte aux maladies hépatobiliaires et ça ne suffit pas pour, d'un point de vue médical, repérer quelque chose d'intéressant. Si on avait une ontologie qui pourrait nous dire des choses comme l'hépatite cholestatique, ben c'est aussi une hépatite. Les deux cas seraient repérés comme deux cas d'hépatite, ce qui est beaucoup plus discriminant que des cas de maladies hépatobiliaires, et ce serait plus intéressant pour la détection. Donc à droite, on voit on en reverra tout à l'heure les quelques déclarations logiques qui disent ce que sont les concepts les uns par rapport aux autres. Troisième cas qui arrive. Le médecin repère un problème du même type, mais plutôt que de dire la maladie, il parle des résultats d'examens biologiques. Voilà, on ne lui a pas dit qu'il fallait précisément dire la maladie ou il n'a pas fait attention. Et il donne plutôt l'info, augmentation des alates et bilirubine augmentée. là aussi, telle qu'est faite Medra, on loupe le fait que ce cas numéro 3 est potentiellement un cas du type tout à fait similaire aux deux autres. Évidemment, si on sait grâce à une ontologie que les deux examens biologiques dont j'ai parlé, ces examens du sang, sont des tests diagnostiques de l'hépatite, alors le cas numéro 3 est un troisième cas d'hépatite provoquée par le même médicament. Voilà, c'est comme ça qu'on peut commencer à faire marcher ces choses-là. On a fait à l'époque, dans un projet un peu antérieur, on a essayé de travailler les intervalles de confiance dans le fait qu'on utilisait Medra ou les ontologies. Voilà, à chaque fois, on s'aperçoit qu'on fait des progrès et qu'à chaque fois, la limite supérieure de celui d'en dessous est inférieure à la limite inférieure. Donc, les tests sont significatifs. Et à chaque fois qu'on passe de Medra à l'ontologie ou à l'ontologie avec des raisonnements, on fait des progrès réels sur la détection. Alors, les verrous pour faire marcher ce type de problème, c'est plutôt par rapport à l'autre, le développement des référentiels adéquats, c'est-à-dire qu'il faut reprendre en charge entièrement Medra pour en faire une ontologie. Medra, c'est quand même un référentiel de 80 000 termes. L'ontologie est en cours de développement chez nous dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle PROTECT. Les anéomes, parce que c'est intéressant, on est plutôt du côté de 6, voire plus, d'anéomes. Là aussi, vous pouvez mettre des chiffres en face. C'est à la fois des sommes élevées, mais pas tant que ça quand on regarde le coût général du projet. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait la pratique, on va voir comment il faut faire pour que ça marche. Voilà, donc l'idée, ça va effectivement de regarder comment on construit ces ontologies qui vont nous permettre de consolider et de coder des données de santé dans les deux exemples dont j'ai parlé, puis j'en montrerai un autre petit après. Alors je vais vous raconter ce que c'est qu'une ontologie en cinq transparents. Vous n'êtes pas obligé de partir après. En plus, l'exemple ne sera pas médical. Alors les exemples sont un peu habituels. Hein. Si vous tapez peau dans Google. Cette requête, en plus, elle est assez récente. J'ai dû la faire il y a une quinzaine de jours. Vous trouvez le pot de toilette, le pot de fleurs, le pot de Nutella. Et si je m'intéressais au pot d'échappement, puisque c'était le cas, vous trouvez deux pots d'échappement, celui à gauche parce qu'il y a un problème de vibration. Vous trouvez, là c'est amusant, je ne m'y attendais pas, quelqu'un au poker qui a du bol, qui a un pot énorme. Vous trouvez le pot d'échappement de la moto et vous trouvez enfin du pot au feu. Donc effectivement, les recherches Google, c'est très bien, mais derrière, ça a besoin d'un petit peu d'interprétation humaine. Et encore une fois, ça marche très très bien. Si on demande à la machine d'aller faire le ménage là-dedans pour trouver notre pot d'échappement, on va avoir des soucis. Alors effectivement, tout ça, c'est une question du fait qu'on est capable ou pas d'interpréter le mot pot et de donner à la machine une certaine capacité d'interprétation. Donc en fait, c'est une question de connaissance et puis c'est une question de ce qu'on appelle de conceptualisation partagée. Il faudrait que la machine, on lui donne un petit peu d'intelligence, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais... Et donc, je vais donner à mon ordinateur une ontologie informatique, je vais lui donner ces arbres de connaissances qui vont permettre de repérer de façon assez précise les concepts qui sont dans mes pages, si tant est que je veux indexer des pages ou des données. Alors la définition d'une ontologie, s'il faut en retenir qu'une seule, a été posée en 1993 par Tom Gruber. Une ontologie est une spécification d'une conceptualisation. Conceptualisation, c'est pour dire qu'on s'est mis autour d'une table, qu'on a réfléchi à la question. Et on n'a pas fait ça que pour les ontologies. Les hommes font ça depuis 2000 ans, voire plus, mais enfin, on a des traces depuis Aristote. Et une spécification, ça veut dire qu'on le met dans un système formel pour que l'ordinateur puisse s'en servir. En passant, ça a été fait en 80, la définition est de 93. Donc, pour ce qui est de la durée des recherches, il faut savoir que c'est tout jeune. Les capteurs qu'on nous a présentés tout à l'heure aussi, mais voilà, c'est des choses assez jeunes. Si je devais faire une ontologie de mes pots d'échappement, un petit bout, voilà ce que serait l'ontologie. Sa partie structurelle formelle est celle qui est en rose à droite, et puis il y a un certain nombre d'autres informations. Donc d'abord, les concepts d'une ontologie pour un ordinateur, c'est des codes. Et des codes, par contre, nous, on peut lui attacher des significations. On peut, par exemple, dire, ben non, le dièse 123, en fait, c'est une manière de le nommer en français, c'est pièce échappement ou échappement. Le dièse 124, une manière de le nommer en français, c'est pot d'échappement ou pot de détente. Je peux même le nommer en anglais, escape pipe. Je peux même donner une définition. Et quand je dis je peux, c'est-à-dire que je dis tout ce que je peux faire en respectant les langages de description des ontologies. La pièce dièse 125, je peux dire que c'est une tubulure ou une tubulaire d'échappement. Il y a un concept qui s'appelle dièse 126, c'est le concept de combustion. J'ai des relations, les ontologies ont aussi des relations, et il y a une relation qui s'appelle la dièse 333, est impliquée dans. Et puis il y a un certain nombre de raisonnements que je peux faire à partir du moment où j'ai un arbre de subsomption. Hein, l'arbre de subsomption, c'est 123 paires de 124 et de 125. Si je sais que cet arbre est exclusif et exhaustif, c'est-à-dire que les seuls concepts plus spécifiques qui existent sont le 124 et le 125, je peux faire des inférences. Alors il y a une inférence que je peux faire déjà, c'est de dire dièse 124 implique dièse 123. Si c'est un arbre qui est vraiment spécifique, alors le fait que j'ai pot d'échappement implique bien le fait que j'ai une pièce d'échappement. Pareil pour dièse 125 implique dièse 123. Et puis les quatre règles que j'ai mis là-haut sont celles qui effectivement supposent qu'on a des fils qui sont exhaustifs et exclusifs, et que si on a le père et pas un fils, on a l'autre, inversement, et si on a et que si on a un des fils, on n'a pas l'autre, s'ils sont exclusifs. Ce qu'on voit dans les deux lignes, dièse 124 implique non dièse 125 et dièse 125 implique non dièse 124. Voilà un peu ce que c'est qu'une ontologie de quatre concepts là sur mes pots d'échappement. Alors évidemment, ça ne date pas d'hier, l'idée de faire des conceptualisations. Un des plus vieux exemples, c'est effectivement chercher à classifier le vivant. Et la classification qu'on a tous appris en SVT, en sciences naturelles des vertébrés, se présente comme ça. On montre bien, là elle n'est pas tout à fait complète, on montre bien que les mammifères sont des vertébrés, les oiseaux sont des vertébrés, les reptiles sont des vertébrés, les poissons sont des vertébrés. Et on montre aussi qu'ils ont des propriétés, des attributs qui leur sont spécifiques, et des attributs qui, selon chacun des fils, n'est pas le même. On va juste prendre l'exemple du premier attribut, le tégument, c'est la peau. Dans les mammifères, c'est un tégument à poils, dans les oiseaux, c'est un tégument à plumes, dans les reptiles, c'est un tégument écailleux renforcé, et dans les poissons, c'est un tégument écailleux dans la plupart des cas. Donc là aussi, il y a la question de la modélisation qui rencontre la vraie vie. Les animaux vivants ne se glissent pas toujours dans les cases qu'on leur a prêtées depuis 500 ans. Bon, en passant, en plus, cette classification, c'est plus ça que nos enfants apprennent à l'école. Et il a été décidé que la classification de l'inné ne représentait pas le vivant qui évoluait, et depuis... on apprend les classifications phylogénétiques qui représentent le vivant depuis 65 millions d'années et maintenant, et dans lequel on voit une organisation différente, et dans lequel il y a de la place pour les dinosaures, alors que là, il n'y a pas de place pour les dinosaures. Ça note quand même que de faire une classification, c'est faire des choix de modélisation, et que ces choix de modélisation ont des conséquences, permettent de représenter des choses ou pas. Alors depuis quand est-ce qu'on essaie d'indexer les choses? Ben, on a au moins la preuve que le 3e siècle avant Jésus-Christ, dans la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait des index. On a un truc qui est carrément beaucoup plus près de la médecine. Au 17e siècle, il y avait à Londres un recensement tous les jeudis des raisons pour lesquelles les gens étaient morts. Donc il est sorti pendant deux siècles, cette petite chose. C'est pas très très lisible, mais il y a des gens qui sont morts de flux, qui sont morts d'apoplexie. Et en plus, on repérait en bas combien il y avait de mâles, combien il y avait de femelles. Il devait y avoir aussi les enfants. Et voilà, donc on avait au XVIIe siècle des choses qui sont très similaires à ce que l'on a maintenant. Peut-être moins bien faites, peut-être pas dans les mêmes dimensions, mais avec les mêmes motivations. Évidemment, encore une fois, depuis 17-18e siècle, on a toujours cherché à organiser des modèles sur le vivant. Et effectivement, si j'arrive à faire disparaître ça, je ne sais pas pourquoi il se balade tout le temps. Non, alors c'est pas lui que je voulais, c'est très bien. Voilà. Hop. Voilà. Et puis aujourd'hui, le fait qu'on cherche à indexer des tas de choses pour des tas de raisons, ça ne s'est pas arrêté, ça s'est même plutôt grandement amplifié, que ce soit pour des ressources de tout type, en particulier peut-être que les deux endroits où il y a le plus de ressources, c'est le médical et le juridique, hein, où l'idée de stocker des ressources et de stocker des index est la plus développée. Alors, mes ontologies, comment je vais les fabriquer? C'est pas tout d'en avoir parlé, il faut les fabriquer. Quand on prend les premières définitions en philosophique, partie de la métaphysique qui s'applique à l'être en tant qu'être, indépendamment de ses déterminations particulières, c'est la définition du petit Robert, c'est en particulier la définition qu'on trouverait dans ce que faisait Aristote. Les taxinomies sont plus proches de nous, c'est-à-dire effectivement les taxinomies en sciences naturelles que je vous ai montrées sont les premiers éléments d'une ontologie. Mais enfin, il faut savoir qu'une ontologie, la difficulté d'une ontologie, c'est la deuxième étape est au moins aussi compliquée que la première. La première, c'est je conceptualise, et la deuxième, c'est je formalise, je fais ce qu'on appelle une spécification, et la mettre dans un système informatique est au moins aussi compliquée. Et c'est ça qui fait à la fois la puissance de l'ontologie et la difficulté de sa réalisation. Donc je vais passer assez vite sur un certain nombre de choses. Pour vous préciser là quand même qu'on a passé l'idée qu'on avait au début qu'on allait faire des ontologies universelles, que l'ontologie allait marcher pour tout. Non, c'est pas du tout le cas. Les ontologies sont toujours faites en fonction d'un certain point de vue. Les Anglais aiment bien faire un peu d'humour pour nous le rappeler. Et donc là, le modèle du chat n'est pas le même entre madame et son vétérinaire. Et c'est un peu humoristique, mais c'est bien comme ça que ça se passe en vrai. C'est-à-dire que même les thésaurus, si on s'intéresse maintenant aux thésaurus dont je reparlerai derrière, le codage PMSI, la T2A, c'est on utilise une classification commune des actes médicaux, la CCAM pour les actes. Une classification de diagnostic est la CIMDIS, la classification internationale des maladies version 10, qui a 12 000 termes. Et elles sont faites pour des besoins de classification très clairement médico-économiques et pas pour des raisons pas tout à fait médicales. La partie économique est assez forte dans ces classifications. Et puis globalement, dans l'usage qui en est fait dans les hôpitaux, PMSI, T2A, c'est très fortement de l'économique. Alors, une ontologie, ça se présente comme ça dans les outils qu'on a maintenant. Il y a 15 ans, ça ne se présentait pas comme ça. On n'avait pas d'outils pour montrer des arborescences. On faisait ça dans des fichiers, dans du Excel. On était un peu malheureux. Depuis qu'un certain nombre d'éditeurs d'ontologie existent, on se retrouve dans des structures. Alors, c'est normalisé, c'est-à-dire qu'un fichier OWL est lu dans ce type d'éditeur. Et grâce aux petites clés devant les concepts, on voit les concepts et l'arborescence des concepts, et là on a pointé le concept de tout qui est sous les signes fonctionnels respiratoires. Là aussi, dans les ontologies, par rapport à ce qu'on faisait au départ, on a bien séparé ce qu'est le concept et puis les termes qui lui sont attachés. Et c'est la raison pour laquelle à gauche on voit des écritures de concepts normalisé dans ce qu'on appelle le camel case, c'est-à-dire on colle des mots en mettant une majuscule au début de chaque mot et en enlevant les accents, et on stocke à côté des termes en français, en anglais, et là ils seront avec les accents nécessaires. Donc il y a bien une séparation entre le concept et les mots qui désignent ce concept. Donc l'ontologie, avec ses éditeurs, avec le fait qu'on doit la construire, avec le fait de sa nature, Elle a deux morceaux d'une corde. D'un côté, elle fournit la sémantique formelle. Elle est dans un langage formel qui permet de faire des inférences. C'est le cas de OWL. C'est ce qu'on appelle une logique de description. C'est ça qui permet qu'elle puisse être manipulée par le système informatique. Et puis de l'autre côté, c'est des hommes qui la font, cette ontologie. Dans notre cas, c'est nous avec des médecins, évidemment. Elle n'a d'intérêt que s'il est consensuel, c'est-à-dire qu'un groupe de gens s'est mis d'accord autour ensemble. Et à ce moment-là, si elle est consensuelle, elle représente un certain modèle de connaissance qui va être partagé par toute une communauté, peut-être pas si large que ça, mais qui va permettre de travailler. Pour l'instant, en médecine, on est plutôt dans des ontologies, je parlerai après des grandes ontologies générales, on est plutôt dans des ontologies de spécialité médicale. On développe l'ontologie de la pneumologie, on développe l'ontologie pour un système de chirurgie cardiaque. Et puis, on essaiera de voir comment on va les aligner les uns aux autres. Alors, construire des ontologies médicales, c'est lourd, c'est quelques années hommes comme j'en ai parlé. Contrairement à ce qu'on a pu faire il y a une dizaine d'années, il faut voir tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire, on est quand même dans des domaines, alors ça c'est spécifique à la médecine, où de très nombreuses ressources terminologiques ont été faites dans tous les domaines, c'est-à-dire que vous faites vous attaquez un domaine médical pour faire une ontologie, de toute façon vous avez au moins la CIMDIS et le MESH qui sont des classifications, qui ne sont pas des ontologies, mais qui ont été utilisées par des gens qui peuvent être un début de ressources intéressantes pour fabriquer l'ontologie. Il y a une chose qui est moins facilement exploitable, mais au moins aussi intéressante, c'est les modèles des SGBD. J'ai dit que dans le système d'information hospitalier, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait. Pourtant, il y a bien un modèle UML, il y a bien une conceptualisation sous-jacente dans le système d'information. Là aussi, elle ne fait pas le café, mais enfin, elle existe. Si on peut la récupérer, on a des gens du métier qui ont fait tourner des systèmes qui fonctionnent. Donc, ça vaut le coup d'aller les chercher. Quand on n'a pas beaucoup de ces choses-là, il y a des méthodologies assez compliquées mais très intéressantes que je n'aurai pas trop le temps de détailler ici, qui sont d'aller chercher les corpus textuels construits en activité. Quand on a voulu construire l'ontologie de la pneumologie, les comptes rendus d'hospitalisation des services de pneumo sont finalement des gens, des experts, des médecins qui parlent de pneumologie et qui parlent de pneumologie quand ils soignent. Donc ils manipulent des mots qui renvoient à des concepts du domaine. Donc là, grâce encore à des outils de traitement automatique des langues qui sont assez récents, je dis assez récents parce que c'est depuis une dizaine ou une quinzaine d'années qu'ils tournent sur n'importe quel portable, alors qu'avant, il valait mieux faire des yeux doux à IBM à l'époque. Là, maintenant, n'importe quel portable un peu puissant fait tourner ces outils-là qui nous donnent des résultats de propositions de termes puis de propositions de concepts pour nos modélisations. Mais si on a tout ça, ça ne nous interdit pas, un, de réfléchir à quelle est l'organisation conceptuelle, deux, jusqu'à quelle granularité de modèle je vais, parce que je peux descendre à des niveaux impressionnants, mais à ce moment-là, je fais des ontologies qui ont des tailles impressionnantes, voire ingérables. Est-ce que je suis capable de réutiliser d'autres ontologies et quid des concepts primitifs et des concepts définis? Je vais en parler un petit peu parce que c'est peut-être ça la plus grande puissance des ontologies. Donc quand on essaie de construire des ontologies à partir de corpus, on utilise une méthodologie qui est de choisir des corpus, de les analyser, de normaliser le domaine, c'est-à-dire de sortir de ces corpus quels sont les termes importants et puis quels sont les termes normés. Et dans cette étape-là, on fait la même chose que les gens qui font les thésaurus. Quand des sociétés savantes, quand des gens ont fait des thésaurus, ils ont bien décidé quel était le terme pour décrire telle chose. Ils ont cité un terme vedette, c'est-à-dire il y a un terme qui est préférentiel. Dans la CIMDIS, c'est comme ça, ou des choses comme ça. Et ce terme préférentiel, potentiellement, il est peut-être un des bons noms du concept auquel on va s'intéresser. Et puis derrière, on construit réellement l'ontologie, on construit réellement la subsomption de concept et on fait du formel. Pour donner une idée de ce que ça permet de fabriquer, on a un petit bout là des quelques concepts un petit bout de concept dans une application qui était le projet Ménélas qui était une application de modélisation de compte rendu d'hospitalisation en chirurgie cardiaque. On voit à gauche qu'il y a les inanimés, qu'en dessous il y a les objets artificiels, les objets naturels, que sous les objets artificiels il y a les médicaments commerciaux et que sous le médicament commercial il y a l'Asilix. En passant, il y a des modèles qu'on fait, ils ont été faits à l'époque, on ne recommencerait jamais à mettre commercial drugs ou artificial object maintenant. On s'intéresserait plutôt directement à la molécule active dans le médicament et le fait que puis on irait s'intéresser à l'autorisation de mise sur le marché, finalement le nom générique du médicament qui est géré d'ailleurs en France par la FSAPS, et ensuite on s'intéresserait au non commercial, qui est un artefact finalement, que les gens prennent un aspirine UPSA 1000 ou UPSA 500, c'est des choses différentes, c'est des codages différents, mais ce qui est important dedans, c'est qu'il y a de l'acide acétylsalicylique. Alors avec ces ontologies, on peut faire des... Alors, les deux grandes opérations qu'on fait au moment où on modélise, la première, c'est d'essayer de faire un arbre de concept. Donc en fait, faire comme on a fait en sens naturel, faire comme a fait Aristote, c'est-à-dire que dans une première étape, les concepts n'ont pas deux paires. Il est tentant, parce que les systèmes formels nous l'autorisent de mettre deux paires à un concept, c'est plutôt une mauvaise idée en termes de modélisation, et il vaut mieux effectivement... Je recule, bien faire attention que sous les animés, il y a des objets artificiels et des objets naturels et qu'il ne faut, il faut pas qu'un objet ait plusieurs paires. Il faut aussi que, en faisant comme avait fait Aristote, ce qu'on appelle les structures différentielles, essayer au maximum que deux objets qui sont sous un même paire ont un axe sémantique qui les sépare. Là, c'est évident, sous les inanimés, il y a les objets artificiels et les objets naturels. Donc on voit bien qu'on parle d'objets et que la sémantique qui les différencie, c'est que d'un côté, c'est artificiel, de l'autre côté, c'est naturel. C'est ce qu'on appelle les systèmes les principes différentiels qu'on a intérêt à respecter. Alors pourquoi on a intérêt à les respecter? C'est parce que derrière, on va justement essayer de fabriquer ce qu'on appelle des concepts définis qui vont nous permettre d'utiliser toute la puissance des ontologies. Ça va vous rappeler l'exemple que je vous ai donné sur les interactions médicamenteuses. On a dans les ontologies, on a des arbres de concept, mais d'autres informations doivent arriver par raisonnement. Et c'est ça qui va être très intéressant. Alors, pour tenir les délais, je vais m'intéresser juste à ces informations-là. On voit ici qu'on a, donc là dans des ontologies, là c'est la pneumologie, il y a de toute façon d'une manière ou d'une autre quelque part l'anatomie. Donc là je prends des micros exemples. Hein. Sous l'appareil respiratoire, en bas à gauche, il y a le poumon et la bronche. Il y a de manière générale en médecine les maladies qui sont rangées par localisation. La médecine a commencé par modéliser les choses par localisation. Donc on voit les maladies de l'appareil respiratoire, les maladies du poumon, les maladies des bronches. Et puis, on range les maladies par processus mis en œuvre. Processus cancéreux, processus immunitaire, processus d'inflammation. Et alors, si on n'a pas une ontologie, on se retrouve à avoir séparé toutes ces petites choses-là. Et en particulier, rien ne nous dit que le cancer du poumon est une maladie du poumon. Si on a fait une ontologie, alors on utilise... Là, je n'ai pas le temps de tout développer, mais on utilise les relations qu'on a pu enregistrer en même temps que l'ontologie. Et par exemple, on aura marqué que la maladie du poumon est localisée sur le poumon et qu'elle est localisée uniquement sur le poumon. Voilà, ça, c'est une précision formelle qui est donnée dans l'ontologie. On va dire que le cancer du poumon est localisé sur le poumon et uniquement sur le poumon. La petite chose qui va être un peu différente entre les deux, c'est que la définition que j'ai donnée de la maladie du poumon, elle est nécessaire et suffisante. Pour être une maladie du poumon, il faut être localisé sur le poumon. La définition du cancer du poumon qui est là, c'est une condition nécessaire, c'est-à-dire le cancer du poumon, c'est autre chose, mais il a au moins comme condition nécessaire d'être localisé sur le poumon. Ça, c'est des définitions médicales sur lesquelles on est d'accord. Et quand on met en route ce qu'on appelle les classifieurs dans les systèmes d'ontologie, le système va faire le raisonnement de vérifier que toutes les conditions nécessaires du cancer du poumon sont satisfaites par la condition nécessaire et suffisante de la maladie du poumon et pour tous ses voisins. Et quand on mettra en route les classifieurs, on va s'apercevoir de ça, c'est-à-dire que le cancer du poumon va revenir aussi sous la maladie du poumon. Accessoirement, le cancer de l'appareil respiratoire va aussi revenir sous la maladie de l'appareil respiratoire. Et tout ce qu'on aura défini logiquement, formellement, correctement, viendra se replacer là où il doit aller. Voilà, et donc ça, c'est ce genre de raisonnement que les ontologies permettent de faire. Et ça, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais ça simplifie l'objet. Un thésaurus qui devrait tenir compte de tout ça sans raisonnement, il serait plus compliqué, il serait difficile à gérer, on ne s'y retrouverait pas, et de fait, dans pas mal, on ne s'est pas retrouvé. Là, ça demande beaucoup de méthodologie, de contraintes. Encore une fois, c'est un coût réel. Fabriquer ce qu'on appelle ces concepts définis formels, c'est un coût réel, c'est des contraintes fortes, mais c'est la condition qui fait que certains objets sont bien repérés en fonction de leur qualité. Et c'est ça qui fait qu'on peut faire les raisonnements dont j'ai parlé sur les interactions médicamenteuses que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas ce type d'objet. Voilà, donc une ontologie, si on prend la définition qui a été posée en 2000, c'est-à-dire un peu plus tard, puisqu'entre-temps les gens avaient travaillé, tout le monde s'est accordé pour dire que c'est une certaine vue du monde. Donc ça, c'est encore une fois le cas de tous les modèles. Les modèles sont des réductions. Alors tout le monde sait, les médecins le savent très bien, que le codage PMSI à travers la CIM-10 et la CCM sont des réductions, voire abusives. En tout cas, ils ne considèrent qu'elles ne sont pas valables d'un point de vue médical, qu'elles sont valables d'un seul point de vue médico-économique. Encore une fois, nos ontologies, même médicales, sont des réductions par rapport à ce qu'est le modèle. Et par exemple, il n'est pas question de dire, comme on a pu l'imaginer à un moment, si j'ai fait un modèle, si j'ai indexé des documents d'un dossier hospitalier et que je les ai indexés avec une ontologie, il n'est pas question de dire je peux me séparer des documents. Tout le contenu de l'information que je voulais avoir est dans les indexations faites avec l'ontologie. Ça, c'est pas possible. Par ailleurs, c'est carrément interdit. Un document médical doit rester en entier, inamovible, dans le dossier médical pendant un certain nombre d'années, une vingtaine à minima. Cette vue, c'est donc un ensemble de concepts, des interrelations, c'est ce qu'on appelle la conceptualisation. Elle aura une spécification. Ce mot-là, c'est pour dire qu'on va la mettre en OWL, dans le langage qui permet de la faire manipuler par les outils qui résonnent. Et puis, elle a un petit défaut, l'ontologie, c'est qu'on n'arrive jamais, les langages ont une certaine puissance, mais ne sont pas suffisamment puissants pour représenter exactement ce que les gens veulent dire avec. Donc en fait, on dit que ça rend partiellement compte. Et pourquoi les langages ne sont pas assez puissants? C'est que si on donnait toutes les possibilités de représentation, on ferait des objets sur lesquels on ne garantirait pas les calculs. Donc on préfère relâcher un peu. Enfin, en fait, il y a plusieurs OWL dans les ontologies, dont l'un est incalculable. Par contre, il a toute la puissance de représentation. Donc après, à nous de faire les choix. Et là, on retombe sur tous les problèmes de recherche en IA. On peut très bien imaginer des systèmes théoriquement incalculables et calculables parce qu'on s'est donné des heuristiques de représentation. Mais ça, c'est un autre problème. Dernier point sur une petite pique d'humour, c'est que faire une ontologie, c'est décider un peu de ce que sont les objets. C'est comme de faire un modèle. On est un peu le dieu de l'ontologie. On a une certaine responsabilité à décider de ce qu'on met ou de ce qu'on ne met pas. Ce qu'on n'a pas mis n'est pas modélisé, donc faut savoir ce qu'on fait. Mais quand même, maintenant, on ne peut pas tout mettre. Pour donner une idée du nombre de concepts médicaux, il y a un grand projet qui s'appelle UMLS, Unified Medical Language System, aux États-Unis, qui cherche à compiler dans un énorme réseau sémantique toutes les terminologies qui veulent bien s'attacher à UMLS. Donc ce n'est pas une ontologie, c'est une compilation de termes de thésaurus. Elle est en anglais, elle ne cherche pas à tout couvrir. Au jour d'aujourd'hui, il y a 1 800 000 concepts et 8 millions de termes dans ce petit réseau sémantique. Donc, encore une fois, il n'est pas question d'aller dans des modélisations aussi profondes qu'on en aurait envie. Et c'est ça la principale raison d'ontologie liée à des domaines précis, c'est qu'on ne peut pas stocker tous les points de vue. On va exploser et l'ordinateur et nos cerveaux. Voilà, et je vais montrer la dernière application. Les deux autres sont arrivées avant l'exposé. La dernière application sur laquelle on travaille, qui est effectivement de travailler sur ces questions de codage PMSI. Le codage PMSI ne satisfait pas les médecins. Non seulement il est orienté économique, mais en fait, il n'est pas question que le codage PMSI représente correctement un patient en termes d'indexation pour récupérer des dossiers d'archives, à cause justement de cette orientation économique. Donc l'idée, ce serait effectivement d'utiliser une ontologie, ce qu'on a testé sur la pneumologie, pour essayer de tisser des liens entre les thésaurus qui sont utilisés par le codage économique et l'ontologie elle-même, et pour offrir un service avec des interfaces un peu sophistiquées aux médecins. Alors, L'idée, c'est j'ai des concepts de la CIM-10, j'en ai un, la tumeur maligne secondaire de la plèvre. C'est la, donc la CIM-10 est une classification et rien dedans ne nous dit que cette tumeur maligne secondaire de la plèvre fait partie des tumeurs ou fait partie des choses secondaires. On sait qu'elle fait partie des atteintes de la plèvre parce qu'elle est sous la ligne plèvre là-haut. Mais tout le reste, c'est nous, êtres humains, qui lisons, qui comprenons ce que ça veut dire, les médecins comprennent encore mieux. Mais rien ne nous dit que c'est une tumeur maligne, sauf à l'avoir lu. Si on voulait que ce soit fait, il faudrait que les termes du thésaurus de spécialité soient représentés par les concepts qui feraient les atomes de connaissance à l'intérieur. Sous-entendu, on devrait arriver à une représentation comme ça. Tumeur, niveau de gravité malin, modalité d'apparition secondaire, localisation anatomique, plèvre. Là, j'ai toute l'information, si tant est que j'ai besoin de l'avoir. Ça veut dire que j'ai quelque part une ontologie, et dans cette ontologie, il y a tous les concepts dont j'ai besoin pour ce terme, pour ce terme de la classification, puis tous les autres. Donc là, j'ai juste noté en rouge ceux qui intéressaient ce terme. Dans les pathologies respiratoires, on a les pathologies respiratoires infectieuses et les tumeurs. Dans les modalités de gravité, on a malin-bénin. Dans les modalités d'apparition, on a spontané, primaire, secondaire. Dans les éléments anatomiques, il y en a plein, mais il y a entre autres la plèvre et le parenchyme. Alors ça, on l'a vu. Pour finir, qu'est-ce qu'on arrive à faire comme application? On peut proposer ce type d'application, c'est-à-dire prendre le compte-rendu d'hospitalisation. Alors ce compte-rendu d'hospitalisation, il a un intérêt, c'est qu'il est censé représenter tout ce qui est important sur un malade, tout ce qui a été pris comme décision et conclu sur ce malade. C'est une obligation légale. Donc un compte-rendu d'hospitalisation, et c'est tellement une obligation légale que des médecins qui font le codage PMSI dans un hôpital, quand ils s'organisent dans les services, certains peuvent ne pas avoir vu le malade. C'est-à-dire le contenu du compte-rendu d'hospitalisation est suffisant. Alors on peut par exemple avoir avec des outils dont je ne parle pas ici de patron de reconnaissance à état fini, repérer en gros les concepts de l'ontologie et proposer deux types de codage. En haut à droite, on voit les propositions du codage PMSI, c'est-à-dire que chacun des termes du thésaurus de spécialité de la CIM-10 ayant été repéré, je peux les proposer. Mais comme on est en médecine et que je ne suis pas pour le tout automatique, le médecin valide ou invalide les choix qui sont faits. Au milieu, c'est assez intéressant, et c'est là que c'est le plus compliqué, c'est que je voudrais faire une représentation conceptuelle pour faire une indexation conceptuelle de ce dossier, pour quand il sera rangé, archivé, je puisse faire des requêtes conceptuelles dessus pour aller le rechercher. Et c'est là qu'il y a pas mal de boulot encore à faire. Le système a repéré pas mal de concepts. La première ligne où il y a un triplet, c'est auscultation pour explorer le poumon. Mais vous voyez que la ligne d'après, c'est radiographie pour explorer le poumon et qu'il y en a une qui est plus générique que d'autres. Donc peut-être qu'on peut essayer, et c'est ce sur quoi on est en train de travailler, à réduire le nombre d'informations. Là aussi, il ne faut pas faire que le médecin déborde d'informations qu'il n'arrive pas à traiter. Et vous voyez le nombre d'informations, bon, elles sont représentées sous forme graphique, à la taille de l'ascenseur qui ne fait pas le dixième de la fenêtre, pour vous donner une idée des triplets qui se succèdent les uns aux autres. Voilà, donc là c'est une petite ontologie par rapport aux grosses de MEDRA ou des infections nosocomiales. Et pour terminer, donc sur ces ontologies, il faut absolument qu'elles soient associées à des terminologies. Alors dans des applications comme celle-là, c'est évident. Dans les autres applications, encore une fois, il a toujours préexisté à ce qu'on fait dans les ontologies, en tout cas en médecine, des classifications. Souvent, ces classifications sont celles qui servent, donc il faut lier l'ontologie à la classification pour les faire travailler ensemble. Le deuxième point n'est pas très important, c'est qu'on essaie de voir comment on peut stocker tout ça dans les mêmes modèles informatiques. Les ontologies sont bien faites pour prendre en charge le multilinguisme, c'est-à-dire à structure conceptuelle identique, on peut associer, comme on a vu sur les tubulures d'échappement, la version anglaise et française. Je dis non prise en compte du multiculturalisme parce qu'il y a plein de travaux qui montrent que des gens de cultures différentes ne modélisent pas de la même façon le monde. Donc quand je dis à culture identique et à langue différente, c'est par exemple des ontologies dans un projet européen. Le projet européen dans le genre je normalise pour que tout le monde soit d'accord, c'est pas mal. Et donc, il faut prévoir un nouvel axe de recherche dont on parle dans les ontologies depuis 2-3-4 ans, c'est l'alignement des ontologies, c'est-à-dire en particulier aligner une ontologie, que tel concept de celle-là soit référent à tel concept de l'autre. Et pour terminer, la question de grosses classifications ou de grosses ontologies dont on voudrait qu'elles soient les références nationales, voire mondiales, d'indexation, qu'est ce qu'on appelle la SNOMED ou la SNOMED CT, pose ce problème d'alignement de façon aiguë. Je vais terminer là-dessus. Potentiellement, il faudrait que pour qu'on puisse faire des applications épidémiologiques qui sortent du champ, d'un champ précis, encore une fois, aligner les indexations qui ont été faites avec les ontologies de spécialité sur les grandes ontologies de référence. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Ces grandes ontologies de référence étant pas les objets les plus faciles avec lesquels travailler. La plus petite des deux, la classification SNOMED V3.5, qui est sur les sites de l'ASIP à 105 000 concepts. La SNOMED CT, qui n'est pas encore entièrement en français, on a 360 000. Ce n'est pas des objets bien organisés d'un point de vue médical, de toute façon, qui nécessiteraient encore beaucoup de travail. Mais de toute façon, ils sont pas. C'est pas avec ça, par exemple, qu'un pneumologue a envie de travailler. Donc il vaut mieux reconstruire l'ontologie de la pneumologie et aligner l'une sur l'ontologie, sur la terminologie de référence. Voilà, j'ai fini.
Merci.
On imagine effectivement, tant qu'on raisonne au niveau européen, on s'en sort à peu près. Mais si on veut commencer à intégrer des philosophies de la médecine différentes, c'est un aspect qu'il va falloir aborder. Alors, est-ce que si tu dis on ne le fait pas parce que pour l'instant on ne sait pas faire, ou est-ce que c'est des choses qui seront envisagées dans un futur plus ou moins lointain, mais
là, je crois qu'on est dans un autre monde. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'avis, mais le modèle de l'acupuncture, je pense qu'il n'a rien à voir avec le modèle de Donc, ça sera un autre.
Ça sera une autre ontologie, en fait.
Oui, je pense que ça sera carrément une autre ontologie. Je ne sais même pas quel alignement on fera. Puisqu'ils n'ont même pas la même vue de l'anatomie, en tout cas, dans l'acupuncture. Je n'ai j'ai aucun jugement de qualité. Hein. Ce n'est pas le même monde.
Oui, c'est ça. Ouais,
Là, vous avez parlé tout à l'heure de lier l'ontologie à la classification. Qu'est-ce que vous entendez par classification ? Parce que nous, en fait, comme vous avez pu voir, on se situe dans une couche beaucoup plus basse que vous. Est-ce que référence à des classifieurs
La CIMDIS, est dit une classification. C'est-à-dire ce qu'on appelle une classification, c'est le fait que on nomme les objets et que le code, par exemple, à cause des points qui sont derrière, nous dit ça, c'est un fils de l'autre. Voilà, la CIMDIS, c'est une classification. Pour être une ontologie, il faut avoir 7000. Alors, la BIF n'est pas tout à fait le moine. C'est pas parce qu'on prend n'importe quoi et qu'on le met en OWL que c'est une ontologie. Pour avoir une ontologie, il faut avoir réfléchi comme une ontologie, l'avoir mis en OWL et s'être organisé pour faire un certain nombre de raisonnements avec. Alors, encore une fois, je ne dis pas que l'ontologie, il y a pas, hors l'ontologie, point de salut. L'ontologie, ça a un coût de développement assez lourd. On peut, dans un certain nombre d'applications, se poser la question de savoir si c'est nécessaire ou pas. Il y a des applications telles que celles que j'ai décrites où c'est absolument nécessaire, puisqu'on a vu les limites des classifications disponibles. Il y a d'autres domaines, comme par exemple le Conseil économique européen a décidé d'indexer l'ensemble de ces documents. C'est fait par un thésaurus multilingue à 27 langues. C'est un thésaurus multilingue. Ils ont considéré que ça leur suffisait. L'ontologie, c'est le plus qui fait un certain nombre de choses. À mon avis, il faut les faire si on en a vraiment besoin.
Et quelle est la différence avec les systèmes experts qui ont connu dans les années 80-90?
Alors, les systèmes experts, ils étaient plus portés. Je ne suis pas sur le bon ordinateur. Les systèmes experts, ils étaient portés sur les raisonnements. On a réfléchi au système expert quand on faisait de l'IA, au raisonnement. Et c'est justement en s'apercevant qu'on ne réfléchissait qu'au raisonnement, et en médecine, il y avait un grand système qui s'appelait MySyn, C'est en réfléchissant qu'au raisonnement qu'on s'est dit, oui, mais quand même, l'ensemble des prémices et des conclusions des règles ont l'air d'appartenir à un domaine. Et c'est justement lié au système expert. Dans les années 90, 12, 13, Tom Gruber s'est dit, il faut s'occuper du référentiel de tous les objets manipulés par le système. Donc, maintenant, on s'occupe des ontologies, mais dans les langages normalisés par le W3C, au-dessus des ontologies, il y a des discussions qui sont en train de se terminer sur quel est le langage de règles qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'on a, pendant 15 ans, fait disparaître un petit peu de nos recherches les règles. Maintenant, elles reviennent. Bon, elles n'ont pas tout à fait disparu. Pour ceux qui sont dans le domaine, les outils G-Rules de e-log, maintenant IBM, font des business rules et sont même en train de revenir dans la santé. Donc voilà. Mais on a pendant un temps, on s'est focalisé pendant des années 50 aux 70, puisque les premiers systèmes experts, c'est les années 50 avec le GPS, on s'est focalisé sur le raisonnement. Des années vers 80-85, où on a eu quand même en médecine les échecs patents de tous les systèmes experts, en gros. Il n'y en a plus un qui tourne, sauf on se cache. Depuis, on fait des ontologies, et maintenant, on se dit que la bonne idée, ce serait de faire les deux.
Merci.
Pour prolonger la question, est-ce que les systèmes experts, n'y a pas des systèmes experts qui ont pu permettre de mettre en place une base de travail d'ontologie? Vous expliquez que c'était quelque chose de très long, qui demandait énormément de temps homme. Est-ce qu'il n'y a pas eu de systèmes experts qui ont pu...
C'est-à-dire, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, dans des situations où, on va dire, l'intelligence artificielle arrivant à certains endroits a provoqué des réflexions des groupes de travail, on peut avoir des conséquences où déjà, on a habitué les gens à ce type de réflexion. Le système expert, c'est aussi conceptualiser des domaines, c'est conceptualiser des raisonnements. Dans pas mal de domaines, quand même, les systèmes experts, ça a été délétère en termes qu'on a tellement promis que quand on a vu dans les années 80 que ça se cassait la gueule, pas mal de gens ont tout jeté quand même. Bon, en même temps, encore une fois, la filiation de ce qu'on fait dans les ontologies, c'est les systèmes experts. De toute façon, en termes de domaine de recherche, on est tous les gens qui font des ontologies, on est tous issus de l'intelligence artificielle. Par contre, les systèmes experts ont promis des choses qu'ils n'ont pas tenues. Et nous, du côté des ontologies, on ferait bien aussi de promettre des choses qu'on peut tenir. Il faut faire attention à ne pas maintenant, par exemple, dire on va coder tous les malades avec la SNOMED, ça va super bien marcher. Si on veut se reprendre des baves dans 3 ans, il faut être prudent quand même.
C'est un peu une méthode d'indexation intelligente de base de connaissances, quoi, de systèmes experts. Parce que...
C'est le noyau. Moi, je compare une ontologie à un moteur de voiture. C'est assez intéressant parce qu'on n'est pas obligé de le voir en plus. Les ontologies, les voient ceux qui les développent, les médecins spécialisés dans le domaine, puis des tas d'applications vont tourner sans que les utilisateurs les voient. Et ces ontologies, elles vont servir à faire... Quand je vous ai montré ce projet-là, c'est de l'indexation. Là, c'est indexer des documents. Ouais. Quand je vous ai montré le projet sur les entrepôts sémantiques, ça, c'est plus du data mining. Il y a 4-5 grandes classes d'applications qu'on peut faire maintenant en médecine dans ces domaines-là.
Et donc vous utilisez des approches de data mining, de fouilles de données en fait, c'est ça? C'est ce qui fait, c'est qui caractérise votre, veut dire techniquement et scientifiquement aussi votre travail, non?
Dans certaines directions, c'est-à-dire ouais. L'application à l'application des entrepôts de données sur les infections nosocomiales, c'est de la fouille de données. L'application d'indexation, là, c'est de l'indexation pour de l'archivage de dossiers médicaux.
Ouais, d'accord. Oui, donc c'est très, très étendu.
Il y a pas
fait.
Mal d'applications
possibles. Oui, oui, oui.